Je crois que c'est la première séance que je modère et je termine avec la chair de poule. Merci à vous deux. Alors, tout d'abord, merci Andro. Ce que j'ai trouvé intéressant dans ton intervention, c'est lorsque tu as parlé de l'évolution de la pratique et des départs, somme toute, basiques du beatboxing vers une pratique qui est devenue beaucoup plus complexe. Et c'est ce qu'on retrouve, enfin, je pense d'abord au graffiti, quand on regarde les premiers graffitis et on voit comment ils ont évolué, le lettrage a évolué. Donc c'est un peu la même chose avec un peu toutes les pratiques. Hier, on parlait des débuts du MCing, où le DJ invité parlait des débuts où... le centre de gravité était tout d'abord le DJ et ensuite le MC est arrivé avec des formules incitatives en demandant au public de bouger. Et aujourd'hui, on est à un niveau de sophistication qui est identique à celui que tu viens de nous montrer dans ta performance. Et qui fait qu'aujourd'hui, on a besoin d'outils comme celui que vous êtes en train de concevoir pour pouvoir lire ou évoluer dans cette pratique. Et donc c'est un projet qui est extrêmement, enfin moi je le trouve novateur, ambitieux, et qui pourrait, en tout cas je le souhaite pour vous, devenir un outil de référence, et en espérant qu'il soit, c'est un clin d'œil à la conférence conçue pour durer. En tout cas merci beaucoup d'être venu le présenter ici, parce que moi je trouve que c'est extrêmement intéressant, et je vous souhaite de réussir dans votre projet. Voilà. Donc je vais maintenant donner la parole à Olivier Miglior, qui est docteur et qui nous vient de l'Université de Montpellier 3, qui a travaillé en collaboration avec l'IRCAM et qui a enseigné l'histoire des musiques populaires, et qui donc dans sa présentation va examiner la prosodie musicale des premiers rappeurs français. Il y a une petite modification à apporter au titre de la conférence. Donc analyser la prosodie musicale du rap et non pas du raga français, uniquement du rap. Il va nous parler essentiellement de rap aujourd'hui. Et donc il a décidé de s'intéresser, en tout cas de souligner l'importance et l'intérêt dans les travaux sur le rap, de se concentrer sur la prosodie, pas nécessairement sur les textes eux-mêmes. Et pour faire cet examen, en tout cas pour mener à bien son projet, il a eu besoin de l'outil informatique. Il va donc nous présenter son projet.
Merci. Alors bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors d'abord, je voulais vraiment te féliciter. Je suis absolument convaincu par ton système de notation. Je suis musicologue, musicien. Et non, le système de notation fonctionne parfaitement. Je n'ai rien à en dire. Il faut qu'il soit exploité un maximum. Il faut le faire connaître. Voilà. Je remercie aussi les organisateurs de ce colloque pour l'organisation, parce que comme chacun a pu le constater, il se déroule à merveille. Donc voilà, je les remercie pour la diversité des disciplines qui sont exprimées ici et des différents pays. Voilà. Alors moi, mes travaux portent bien sur le rap français des débuts, hein, dans une période qui s'étend de 1984 à 1991, et plus précisément, comme le précise mon titre, sur l'analyse de sa prosodie musicale. Alors ma présentation se déroulera en trois parties. Dans un premier temps, je montrerai l'intérêt d'analyser ce paramètre et d'utiliser l'outil informatique pour ce faire. Et je présenterai ensuite donc mon corpus et une chaîne de traitement que j'ai conçue en collaboration avec l'IRCAM pour montrer donc comment j'ai pu analyser les différents éléments de ce paramètre. Enfin, je démontrerai l'efficacité de ma méthode en montrant comment la prosodie musicale des premiers rappeurs français procède d'une attitude à l'égard des systèmes linguistiques et musicaux. Alors, le rap, il présente la particularité d'être une musique populaire enregistrée, donc de tradition phonographique, non notée. Du coup, l'analyste doit toujours avoir à l'esprit qu'il n'est pas confronté à l'enregistrement d'une œuvre, mais bien à l'œuvre elle-même, le contenu acoustique de l'enregistrement, lui révélant les spécificités de son exécution. Donc à cette absence de partition, s'ajoute l'absence de mélodie vocale et la vélocité des rythmes vocaux qui empêchent toute transcription mélodique et handicapent les relevés rythmiques de la partie vocale. Du coup, le rap résiste aux outils traditionnels de l'analyse musicale. C'est pourquoi les études existantes se concentrent davantage sur le contexte social dans lequel cette musique émerge, sur le contenu des paroles, sur la voix ou sur l'esthétique, études bien entendu indispensables à la compréhension du phénomène, mais très très peu donc sur le matériau musico-littéraire, sur le matériau musical. Mis à part peut-être quelques productions de gens qui sont dans la salle, Monsieur Jacono et Monsieur Déon qui ont déjà produit plusieurs articles, et je pense aussi à Serge Lacasse qui a énormément produit, mais plutôt sur le rap américain, disons. Alors, conscient de ce manque de travaux et d'outillage sur le sujet, j'ai formulé durant ma thèse de doctorat l'hypothèse que la prosodie musicale, donc conçue comme l'ensemble des règles régissant les rapports de quantité, d'accentuation et d'intensité entre les syllabes des paroles et les temps de la mesure, était l'élément le plus à même de caractériser les styles de musique vocale populaire utilisant des phrasés plus proches de la parole que du chant. Donc, dans le cadre du rap, j'ai pu constater que l'analyse de ce paramètre était particulièrement pertinente, puisque la performance vocale y est principalement rythmique, et de fait, le placement rythmique des syllabes sur la mesure musicale constitue un élément fondamental de la performance rappée, participant à fonder une de ses composantes majeures, le flow. Donc pour analyser le flow, ou du moins une de ses composantes, parce qu'il y aurait aussi l'intonation à observer, j'ai choisi d'utiliser l'outil informatique. Pourquoi ? Parce que celui-ci présente plusieurs avantages. Tout d'abord, il prend en compte la nature phonographique des œuvres, donc leur aspect enregistré, non noté. Il permet de fait d'objectiver considérablement les contenus musicaux, puisqu'il analyse le contenu acoustique des enregistrements. Et enfin, il permet de traiter des corpus considérables, et ce, de manière automatique. Donc son emploi est tout à fait adapté à l'analyse de la prosodie musicale du rap, comme nous allons le voir plus en détail immédiatement. Alors pour cette présentation, 5 morceaux de rap français ont été retenus dans une période qui s'étend, comme je vous l'ai dit plus tôt, de 1984 à 1991. Mon objectif était de mettre en lumière la prosodie musicale des premiers rap en langue française. Alors, ceux-ci ont été choisis à la fois pour leur diversité, mais également pour leur représentativité du style. 1984 correspond à la sortie du premier album de rap en langue française, l'album de DJ Dynasty, Panam City Rappin', duquel j'ai retenu le morceau éponyme. J'ai ensuite retenu 2 morceaux de la première compilation de rap et de raga français, qui a d'ailleurs été, pour la petite anecdote, enregistré clandestinement à l'IRCAM en 1989. Et c'est d'ailleurs Maître Madge, hier présent, qui a constitué les artistes qui ont enregistré cette copie. J'ai donc choisi Je Rap de NTM et La Formule Secrète d'Assassin. Ensuite, j'ai retenu 2 morceaux sortis en 1991, ma date butoir. Un morceau, d'IAM, c'était inévitable, incontournable, l'album de la planète Mars, le morceau IAM Concept, et Qui sème le vent récolte le tempo, d'MC Solar, qui a également participé dans son album éponyme au succès du rap français. Voilà. Donc pour analyser leur prosodie musicale, il me fallait d'abord extraire les unités rythmiques des systèmes linguistiques et musicaux. Autrement dit, les temps de la mesure et les syllabes des paroles. Et j'ai d'abord extrait le cadre métrique musical à l'aide du dispositif d'analyse IRCAMBIT, qui est développé par l'équipe analyse et synthèse des sons. Alors, ce logiciel, il permet d'estimer de manière automatique et à partir d'enregistrements le placement des temps, des deuxièmes croches de temps, des mesures et la vitesse des tempi, et ce, donc de manière automatique. Et voici immédiatement le résultat obtenu pour un extrait d'IAM Concept. Donc les premiers temps sont distingués des autres, permettant d'estimer le placement des mesures, et de la même manière, le logiciel estime le placement des deuxièmes croches de temps, ce que nous lui avons bien sûr demandé. Alors, une fois le cadre métrique révélé, il restait à extraire la chaîne de parole, autrement dit, les syllabes, les silences et l'intonation. Et pour cela, les spécialistes en synthèse vocale réalisent généralement des segmentations syllabiques à l'aide de logiciels performants qu'ils développent pour ce faire, et ce de manière automatique. De même pour l'intonation, eh bien, ils révèlent la fréquence fondamentale à l'aide d'algorithmes très adaptés. Seulement, la condition sine qua non à l'automatisation de ces opérations, eh bien, réside dans le fait de posséder les fichiers de voix seuls, autrement dit les a cappella. Et ces fichiers sont extrêmement difficiles à obtenir. Hein. J'ai démarché auprès des maisons de disques, auprès des artistes même, auprès des ingénieurs du son, sans succès. J'ai donc expérimenté ensuite des logiciels de séparation de sources, histoire d'extraire la voix et de la soumettre au logiciel, là encore sans succès. J'ai donc décidé de réaliser ces segmentations syllabiques manuellement à l'aide du logiciel AudioSculpt. Alors c'est une opération qui est extrêmement chronophage, hein, c'est à peu près 2 à 3000 syllabes par morceau, vous imaginez le principe, mais c'est également très 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 précis. Donc ça consiste en quoi ? Ça consiste à signaler les débuts et les fins de chaque syllabe à l'aide de marqueurs, puis le son phonétique de chaque syllabe en alphabet phonétique sans pas. Je n'ai pas utilisé l'API parce qu'on ne peut pas encore bien l'utiliser sur l'outil informatique, l'alphabet sans pas peut être utilisé. Et enfin, j'ai signalé les pauses respiratoires et les silences à l'aide du signe dièse. Et donc, voici en quoi ça consiste pour un extrait d'IAM Concept. Alors ici, le processus est considérablement accéléré pour cette présentation.
En force, légionnaire, attaquant rime, déclarant la nouvelle ère de panique.
Donc on signale le début et les fins de chaque syllabe à l'aide de marqueurs, leur son phonétique en alphabet sans pas, puis on vérifie la conformité de ce qu'on a fait à l'aide de l'enregistrement. Donc le cadre métrique et les syllabes des paroles ainsi mises au jour, hein, mises en lumière, eh bien, il restait à signaler les événements qui constituent la prosodie musicale. Et pour cela, eh bien, j'ai ajouté à la suite des labels phonétiques qui signalent donc le son de chaque syllabe, eh bien, des labels prosodiques qui indiquent d'une part l'accentuation des paroles. Ainsi, chaque dernière syllabe de phrase a été signalée à l'aide du label P. Pourquoi ? Parce que la dernière syllabe de phrase reçoit l'accent tonique, hein, en français. Ensuite, j'ai signalé les accents rythmiques d'intérieur de phrase à l'aide du label B et les accents d'insistance qui sont placés sur des syllabes généralement atones dans la prosodie du français à l'aide du label A. Concernant le rapport des syllabes avec le cadre métrique musical et leur placement sur la mesure, eh bien, j'ai choisi de signaler toute syllabe tombant sur un temps à l'aide du label R et toute syllabe tombant sur une deuxième croche de temps à l'aide du label Y. Alors, bien évidemment, une syllabe peut recevoir plusieurs labels. Si une dernière finale de temps, de phrase tombe sur un temps, elle recevra le label P/R. Si elle tombe sur une deuxième croche de temps, P/Y, et ainsi de suite. À partir de tous ces signalements, de ces estimations, eh bien, je me suis questionné sur les représentations que je pouvais obtenir pour servir mes analyses. Et donc, en collaboration avec l'IRCAM, et particulièrement avec l'équipe représentation musicale de l'IRCAM, hein, elle porte très bien son nom, d'ailleurs, je fais une petite dédicace à Jérôme qui est ici présent, qui en fait partie et qui a contribué à tout ça, Jérôme Nica. Nous sommes parvenus d'abord à mettre en partition la partie rythmique des phrasés vocaux. Comment ? Eh bien, en quantifiant nos segmentations syllabiques à l'aide du logiciel Open Music, développé par cette équipe de l'IRCAM. Alors, que permet ce logiciel ? Il permet de connecter visuellement des boîtes, que je vous montre ici, représentant des opérateurs mathématiques ou musicaux, hein, afin de produire des algorithmes pour la transformation ou la production de structures musicales. Ces boîtes sont convoquées selon les ambitions de l'utilisateur, donc ici la quantification, et sont réunies dans le patch que vous voyez sur cet écran. Et à partir de ce patch, eh bien, nous obtenons en fin de chaîne des fichiers XML que nous pouvons ensuite traiter sur éditeurs de partitions de type Sibelius ou Final. Et pour ma part, eh bien, j'ai utilisé le logiciel Final et voici le résultat obtenu pour les premières mesures de la partie rythmique de la voix d'IAM Concept. Donc on est là sur des partitions fondées sur la réalité acoustique de l'enregistrement. Je n'interprète rien si ce n'est les algorithmes qui ont servi à produire cela. L'écriture syllabique y figure en alphabet phonétique et en français standard. L'accentuation des paroles est également présente et les durées syllabiques ont toutes été transformées en durées musicales contenues dans des mesures à quatre temps. Donc ces partitions fondées sur la réalité acoustique des enregistrements sont largement exploitables pour nos analyses de la prosodie musicale. Néanmoins, la quantification dont elles proviennent a tendance à gommer les nuances infimes de l'interprétation et surtout ne permet pas l'appréhension globale immédiate de la prosodie musicale des morceaux et des styles. C'est pourquoi il est aussi nécessaire d'analyser le contenu acoustique des enregistrements. Et seulement dans ce domaine, les possibilités sont infinies. Il m'est donc revenu de définir quels paramètres choisir, quels paramètres analyser. Et j'en ai retenu un certain nombre, je vous conseille pour cela de lire ma thèse. Mais j'en présenterai aujourd'hui deux, grâce auxquels je vais montrer comment les rappeurs, en plaçant leurs syllabes sur la mesure, procèdent d'une attitude bien particulière. Ces deux paramètres, ce sont le placement des syllabes accentuées sur la mesure musicale et le degré de synchronisation entre la voix et les instruments. Alors, j'emprunte la notion d'attitude à Christian Béthune, qui situe sa genèse conceptuelle au sein de l'environnement esclavagiste de la plantation. Et je le cite. Aux États-Unis, le mot attitude, que le Black English tronque volontiers en tude, est l'un des termes clés de la culture hip-hop. Pour comprendre ce que connote ce vocable, il faut se reporter à l'univers esclavagiste de la plantation. De la part d'un esclave, prendre une attitude, to have an attitude, constitue aux yeux des maîtres une insolence suffisante pour justifier un châtiment corporel. Est en l'occurrence considéré comme une attitude de la part de l'esclave, tout comportement par lequel ce dernier semble manifester une volonté d'apparaître comme sujet. On comprend les raisons pour lesquelles la culture afro-américaine a fait de la mise en scène ostentatoire des attitudes un élément décisif de sa symbolique. Et moi, personnellement, je comprends aussi mieux pourquoi la performance rappée est principalement rythmique, puisque le rythme est, selon Méchonic, une organisation du sujet. Béthune indique ensuite que les rappeurs français ont été particulièrement sensibles à cette symbolique de surenchère égotique, précisant que le paternalisme colonial impose donc à sa manière une stricte répartition des rôles sociaux qui confine l'autochtone à une existence de sujet infantilisé passant par des rituels de soumission. Et cette soumission quotidienne, ressentie communément par les Afro-Américains et les jeunes Français issus de l'immigration, quoique bien sûr différents dans leurs manifestations, renforce cette tendance de mise en valeur du sujet. Et ainsi, la propension des rappeurs français à développer une attitude à l'égard des institutions qui les soumettent à leur joug ségrégatif ou discriminatoire. Cette attitude se traduit, nous le savons, dans les paroles, dans le comportement public des artistes, mais ce que nous savons moins et que nous allons montrer aujourd'hui, elle se caractérise à tous les niveaux de la prosodie musicale, à commencer par le placement des syllabes accentuées sur la mesure, notre premier paramètre. Et nous remarquons tout d'abord que les dernières syllabes de phrase, les finales de groupe de souffle, se placent de manière complètement aléatoire, ce qui fait que les phrases sont de longueurs fréquemment différentes et impliquent un placement sans cesse changeant. Alors j'ai choisi de représenter ces placements par des graphiques. Donc ici, le placement des finales de groupe de souffle dans I Am Concept. Les barres bleues désignent les finales tombant sur les temps, les barres oranges, les finales tombant sur les deuxièmes croches de temps, et les barres grises, les finales tombant dans ce que j'ai nommé l'entretemps. Autrement dit, tout ce qui n'est ni temps, ni deuxième croche de temps. Et on voit bien donc que tous ces placements sont aléatoires, puisque toutes les positions de la mesure sont sollicitées, certaines plus que d'autres. On le remarque dans Je Rap également de NTM, toutes les positions sont sollicitées, absolument pas les mêmes que dans I Am Concept, ce qui ne révèle aucun habitus particulier. Toutefois, on relève que les barres grises, donc les entretemps, sont les plus sollicitées. Autrement dit, toute une part de l'accentuation des paroles se fait en dehors des positions fortes de la mesure, ce qui va nous intéresser. Si, je vais aller vite là-dessus, si l'on observe les autres types d'accents, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir une oscillation permanente entre se placer sur les temps ou complètement ailleurs que sur les temps, ce qui est très intéressant. Où exactement et dans quelle proportion, là est tout ce que nous voulons savoir grâce à notre second paramètre, le degré de synchronisation entre la voix et les instruments. Alors il permet quoi ? D'analyser le degré de concordance entre les syllabes prononcées et le cadre métrique. Et nous pouvons donc le calculer en pourcentage et à plusieurs niveaux. À un premier niveau, quelle part des syllabes accentuées s'émancipe du cadre métrique musical ? 42%, nous pouvons l'affirmer. 42% des syllabes accentuées tombent ailleurs que sur les temps ou les deuxièmes croches de temps. Il y a donc toute une part de l'accentuation qui se fait ailleurs. Ensuite, nous pouvons surtout, ce qui nous intéresse en tant que musicien, savoir l'influence des paroles, ou pardon, des temps et des deuxièmes croches de temps, sur l'accentuation des paroles. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a eu beaucoup de théories là-dessus. Est-ce que le cadre métrique influe sur l'accentuation ? Eh bien, le temps, les temps, oui, à 93%. Lorsqu'une syllabe tombe sur un temps, à 93%, elle est accentuée. Par contre, les deuxièmes croches de temps, absolument pas. Voilà. À partir de ces considérations générales, on observe les partitions et on cherche donc des patterns rythmiques tombant en dehors de ce cadre métrique. Et je commencerai donc par indiquer, je suis sur la fin là, je termine d'ici, allez, 4 minutes. je commencerai par indiquer que les rappeurs français arrêtent très fréquemment leur prononciation dans l'entretemps. Et cela se voit dans tous les morceaux de manière extrêmement récurrente. Et nous pouvons le vérifier, par exemple, et l'écouter dans la formule secrète d'Assassin, où la syllabe « rieux » tombe juste avant le quatrième temps.
Tu ferais mieux de prendre mes paroles au sérieux, car quand...
Donc, tu ferais mieux de prendre mes paroles au sérieux, car quand je prends respiration, il repart sur la deuxième double croche. Ensuite, on se rend compte qu'il réalise cela aussi à l'intérieur des phrases. Donc, il place un accent tonique avant le temps et la prolonge sur le temps d'après. Réalisation de syncope présente absolument dans tous les morceaux. Ici, on peut écouter I Am Concept où les syllabes d'em et reine tombent à côté ou avant le temps.
Sans faire rayonner le diadème de la reine unité, hein, devrais-je dire à elle.
Voilà, faire rayonner le diadème de la reine unité. Donc là, il y a une confrontation de l'accentuation et du cadre métrique. Défiance des systèmes linguistiques et musicaux. Et disons que le paroxysme est dans un pattern rythmique qui consiste en l'enchaînement d'une syncopette et d'une syncope. Alors pour les musiciens, ça consiste en cette figure. On la trouve absolument partout. Pourquoi ça consiste pourquoi il y a défiance ici des systèmes linguistiques et musicaux? Parce que la première syllabe qui tombe sur un temps est une syllabe censée être atone. Elle est accentuée, elle tombe sur le temps. Et la deuxième syllabe accentuée est un accent tonique, elle est censée tomber sur le temps. Eh bien non, elle tombe juste avant le temps et elle est poursuivie sur le temps d'après. On l'écoute dans Panam City Rapine de DJ Dynasty. Dans ma vie et dans I Am Concept, on retrouve exactement la même chose.
De l'alliance afro-asiatique, Carl Brothers.
Carl Brothers Shuriken vient d'Afrique. Et on le retrouve dans absolument tous les morceaux de cette époque-là. Et enfin, donc pour terminer ces analyses, eh bien, les rappeurs français utilisent absolument autant fréquemment que ceux que je viens de vous montrer et une prosodie des plus traditionnelles. Autrement dit, en faisant correspondre tous leurs accents toniques à tous les temps de la mesure de manière très régulière. Et on le voit par exemple dans « Qui sème le vent récolte le tempo » d'MC Solar.
Dans l'arène musicale, les reines sont à moi, torero, lexical, matador. Prêt pour la mise à mort, après le corps à corps, alors fais un effort, remue ton corps plus fort.
On est... Arrêt soudain de la prononciation. Mais globalement, prosodie traditionnelle, tous les temps correspondent. Alors, pour conclure, en oscillant sans cesse entre une prosodie des plus traditionnelles et une prosodie complètement défiante à l'égard des systèmes linguistiques et musicaux, eh bien, les premiers rappeurs français montrent qu'ils connaissent et savent appliquer les règles prosodiques dominantes, mais également les remettre en question, les défier. Cette attitude globale eh bien, s'inscrit en accord avec une culture hip-hop principalement basée sur le défi hein, dans ses manifestations diverses. Je pense aux battles de breakdance, de rap, de DJing ou de beatbox. Elle est également cohérente avec, comme je le disais tout à l'heure, le caractère défiant du contenu des paroles et du comportement public des rappeurs. Et enfin, cette attitude prosodico-musicale témoigne d'une grande maîtrise de placement rythmique de la voix par laquelle le rappeur fait valoir sa place de sujet, hein, donc l'originalité rythmique de sa performance est pour lui un moyen de se présenter au monde. Son personnage vocal montre qu'il est conscient des règles dominantes en vigueur, hein, du cadre imposé par la société, mais aussi qu'il convient de les enfreindre, de les défier, de jouer avec pour dépasser l'implacabilité du déterminisme social, un fait de rituel de soumission comme j'en parlais tout à l'heure. Du coup, l'extraction des données acoustiques et leur représentation sous forme de partitions et de graphiques nous ont permis eh bien, d'analyser les variations infimes de l'interprétation et eh bien, de fait, d'objectiver considérablement les données sujettes à l'analyse. L'outil informatique apparaît ici non pas comme un outil de réduction statistique du phénomène musical, ce que beaucoup de musiciens et musicologues le semblent craindre, mais comme un outil ou un instrument méthodologique majeur hein, pour analyser le rap. Notre méthode ouvre en plus, bien sûr, la possibilité de révéler la mutation de la prosodie musicale du rap français à travers les décennies, d'artistes également à travers leur carrière, mais aussi dans d'autres langues, puisque cette méthode peut s'appliquer à bien d'autres langues, et dans d'autres styles. Par exemple, on parle souvent de quelle différence entre slam et rap. écoutez, donnez-moi des acapellas, je vous le montre dans la minute qui suit. On va pouvoir regarder le rapport des syllabes au cadre métrique, et je pense que c'est là-dedans que se joue la différenciation. Enfin, pour finir, voilà, j'espère vous avoir convaincu de la pertinence de l'analyse de ce paramètre à l'aide de l'outil informatique. Et j'insisterai donc sur la nécessité d'ouvrir un champ d'études entièrement consacré à cela. Voilà, nos résultats vont pouvoir enrichir considérablement la branche stylistique de la musicologie, inaugurant donc un nouveau champ d'investigation que j'appellerai la prosostylistique ou la stylistique prosodique. Voilà, ça peut servir également et surtout au développement de nouvelles technologies, hein, donc pour les sciences informatiques, tout à fait objectivantes pour l'analyse musicale. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.
Mmh.